When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast?
Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, bah pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine.
Est-ce que vraiment, on doit encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie?
C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing.
Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net.
Donc, en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable.
Notre santé, c'est 90% l'alimentation.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est Isadora qui parle et je suis accompagnée de Claudie. Bonjour Claudie.
Bonjour Isadora.
Alors là Claudie, au moment où on parle, elle est à Lisbonne, au soleil, et nous sommes en visio toutes les
deux.
Parce que même en vacances, elle prend un petit peu de temps pour nous.
Voilà, avec plaisir.
Et ça c'est chouette.
Avec plaisir.
Et aujourd'hui, j'avais hyper envie de parler d'un sujet que moi qui m'anime, mais qui nous anime toutes les deux, c'est le pouvoir du fait maison. Et c'est vrai que très souvent, quand nous, avec Marisa, on dit sur les réseaux, il faut faire maison le plus possible, retourner dans votre cuisine, etc. Bah, très souvent, on va nous dire, oui, c'est bien joli, mais bon, on n'a pas le temps, etc., etc. Et j'avais envie que tu sois là, Claudie, en tant qu'experte, pour nous dire pourquoi aujourd'hui, il est vraiment essentiel qu'on reprenne tous le pouvoir de notre cuisine et qu'on reprenne en fait le fait maison, de transformer nous-mêmes ces aliments. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui,
super.
Toutes les deux, et pour vous.
Super.
Alors première question, de toute façon, ce serait finalement c'est quoi un aliment transformé, semi-transformé, ultra-transformé, c'est quoi un aliment transformé?
Un aliment transformé, si tu veux, c'est un aliment qui, dans lequel, dans sa composition, on va trouver des intrants, donc des choses qu'on a mis dedans, ce qu'on appelle des intrants, qui sont soit eux-mêmes transformés, soit chimiques, c'est-à-dire pas du tout reconnus dans la nature, pas du tout connus dans la nature et reconnus par le corps. Et après, entre semi-transformés ou ultra-transformés, on va dire bah, c'est quelque part et la qualité de ces intrants et la quantité de ces intrants. Donc en fait, c'est vraiment important pour nous de regarder la composition de ce que l'on mange, parce que c'est là où on va voir vraiment ce qu'il y a dans l'aliment qu'on achète. Donc globalement, on le sait, quand on achète un aliment, on va dire tout prêt, un plat préparé, un gâteau déjà tout prêt, des biscuits, même
oh, les céréales.
Alors, les céréales du petit déjeuner, voilà, c'est ultra transformé, la plupart. Même des préparations, hein, on va dire, de charcuterie, des choses comme ça, c'est transformé parce qu'il y a des intrants à l'intérieur, des choses que le transformateur, le fabricant a mis pour plusieurs raisons. D'abord, ils mettent des produits chimiques, alors c'est soit des conservateurs, des additifs, des exhausteurs de goût, ça peut être aussi des, on va dire un petit peu ce qu'on appelle des cosmétiques, tu vois, des choses qui vont transformer et la couleur de l'aliment et le goût et la texture, tu vois, pour que ça plaise plus aux enfants, par exemple, un gâteau un peu, je sais pas, une confiture plus rouge, un gâteau un peu plus chocolaté, enfin bon, voilà. On va transformer la couleur de cet aliment, donc on va y ajouter un intrant chimique. Dans tout le commerce, en fait, dès qu'on achète quelque chose quelque part de préparé, eh bien, on sait qu'il a été transformé. Alors, entre peu transformé, transformé et ultra transformé, tout dépend de ce qu'on y a mis dedans. Donc, la meilleure solution pour manger le moins transformé possible, c'est de faire soi-même. Alors, après, dans tous les circuits, tu trouves des choses transformées. C'est-à-dire que, globalement, les industriels, ils transforment pour que l'aliment se garde plus longtemps. D'accord ? Comme ça, ils peuvent en préparer, voilà, pour qu'il soit transportable. Ils transforment pour que ça coûte moins cher. Donc, pour qu'ils vendent plus, parce que quand c'est pas cher, on a plus facilité à acheter. Et puis, ils transforment surtout pour nous rendre addicts. C'est-à-dire que, en mettant des exhausteurs de goût, en mettant des couleurs un peu différentes, et surtout en rajoutant du sucre. Alors, quand je dis sucre, un produit ultra transformé, il n'y aura pas écrit sucre complet. Ils vont utiliser des sucres complètement transformés, des sucres invertis, des sucres des sirops de glucose, des choses comme ça, qui vont nous rendre addicts aux produits. Et quand on est addict, on rachète.
Donc, c'est ça. Mais en plus, le pire, je pense, c'est que c'est pas écrit sucre. Ce serait si simple si derrière c'était écrit sucre, juste sucre. Mais en fait, c'est des synonymes. Ou parfois on ne sait même pas, par exemple, je sais pas, mélasse, t'es là, bah c'est quoi, bah tu sais pas, c'est un mot qui paraît bah chouette, ça fait pas très chimique, donc tu te dis bah c'est bon quoi, c'est de la mélasse, c'est super, à la limite c'est de la confiture quoi. Et c'est là où on se dit, ils ont quand même les industriels cette facilité à trouver des synonymes qui nous perturbent et nous. Enfin, quand on n'est pas informé, je suis désolée, mais tu sais pas que la mélasse, c'est une forme de sucre. Et après, t'as une autre virgule avec écrit, je sais pas, saccharose. Tu sais pas. Et puis après, c'est écrit une autre virgule, glucose. Tu te dis, ah oui, il y a beaucoup, finalement, de sucre dans ce produit. On va dire ultra transformé de l'industriel. Mais tu disais aussi que il y en a partout du transformé. Oui. Mais il y a quand même peut-être une différence entre un aliment transformé de l'industriel. Et peut-être un aliment transformé de l'artisanat, peut-être.
Tout à fait. Parce que, par exemple, quand tu dis, quand on parle du sucre, quand on voit écrit sirop d'orge ou sirop de blé, d'accord, on se dit, ah bah, c'est du blé, super. Et les industriels sont très forts, hein, ils vont mettre sur le packaging blé complet, produit naturel. Donc, on voit rien, si tu veux, quelque part, on voit que ce qu'on veut voir, en fait, aussi. Il y a peut-être un petit peu ça. Mais sirop de blé, tu te dis, oh, bah super. Sauf qu'en fait, dans la graine du blé, pour obtenir le sucre, on va le travailler, le passer dans dans différents états chimiques pour récupérer une petite molécule de ce grain de blé qui est effectivement une partie du sucre. Et c'est ces transformations chimiques qui vont donner le sirop de blé, donc un sucre qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas intéressant pour le corps. Bien sûr, si tu manges une graine de blé, tout dans la graine, il y a les fibres, il y a l'amidon. Donc, le sucre qui est contenu dans le blé, comme l'amidon par exemple, va être facilement assimilable par le corps. Mais quand tu as juste le sirop de blé, qui a été transformé par plein de produits chimiques, tu vois, donc effectivement, un artisan, lui, soit il utilise un bon produit, c'est-à-dire un peu de sucre non raffiné, par exemple, ou des céréales non raffinées, ou en tout cas un produit qui n'est pas transformé, alors oui, mais tu peux aussi avoir aussi un petit fabricant qui va utiliser du sirop de blé qu'il achète en grande quantité. Donc là encore, l'important, c'est d'avoir la composition du produit qu'on achète. Mais je suis d'accord, plus tu te rapproches du fabricant, plus tu vas vers un petit producteur, plus tu t'assures quelque part que déjà tu peux avoir des réponses, et puis que tu as plus de chance, on va dire, d'aller vers du moins transformé.
Parce que c'est vrai, quand on va chez, par exemple, un artisan, quand on regarde, par exemple, je sais pas moi, les cookies d'un artisan que j'achète au moins une fois par mois, là, bah, les ingrédients qu'il y a au dos, c'est limite ce que j'ai chez moi pour faire la même chose. Je pourrais en fait refaire son même cookie avec les ingrédients que j'ai chez moi, puisque c'est exactement les mêmes qu'il y a écrit au dos, mais je prends pas le temps de le faire parce que voilà, j'ai pas spécialement envie. Alors qu'un produit très souvent ultra industrialisé, quand tu regardes au dos, bah les ingrédients, je les connais même pas, je les ai sûrement pas chez moi. Donc je sais que ça a dû être créé de façon très technique Et donc ça s'éloigne, je sais pas, moi je parle de d'une bolognaise, enfin tout le monde sait ce qu'il y a dans une bolognaise, hein. Je veux dire une bolognaise, de la viande, des carottes, de la sauce tomate, puis c'est tout. Alors que quand on va l'acheter auprès d'un industriel, bah t'as une liste tellement incroyable d'ingrédients que tu te demandes même comment on peut avoir la même chose que moi je fais à la maison, parce que c'est pas du tout les mêmes ingrédients.
La chimie, c'est merveilleux pour ça, c'est-à-dire que ils sont capables en chimie culinaire ou pas culinaire, de reproduire un goût. C'est de la cosmétique. De reproduire une texture, de reproduire une couleur. Donc, tu vas penser manger de la sauce tomate, mais il va y avoir très peu de tomates dedans, tu vois. Donc, globalement, l'industriel, le gros industriel, il s'y retrouve parce que il va faire ça et ça va lui coûter moins cher. J'imagine que les cookies que tu achètes une fois par mois chez ton artisan, ils coûtent plus cher une boîte de cookies que tu achèterais en grande surface. Quand on est dans un magasin ou quand on veut acheter quelque chose, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on veut en fait, qu'est-ce qu'on veut, comment dire, c'est quoi l'objectif de nos achats, et voilà, est-ce que je veux acheter beaucoup et pas cher, alors ça a l'air bateau ce que je dis là, mais est-ce que je veux acheter voilà, beaucoup et pas cher, en me disant c'est pas cher, c'est un industriel connu, ils ont pignon sur rue, mais il n'y a pas de problème, je peux donner ça. Voilà, donc quelque part, on donne à cet industriel notre quitus pour lui dire je vous fais confiance, mais en fait on n'est pas libre du tout puisqu'on ne comprend pas ce qu'il a mis dans sa composition. Ou alors est-ce qu'on veut garder notre liberté et dire moi je veux savoir ce que je mets à manger dans mon corps. Et dans ces cas-là, je fais moi-même, ou j'achète, comme tu dis, à un petit artisan dont je connais la qualité et la réputation, et je peux aller voir ce qu'il met dedans. Et dans ces cas-là, je garde ma liberté. Tu vois, on prend un cran au-dessus, c'est-à-dire que juste se dire « Ah ben, je regarde ce qu'il y a comme composition », c'est déjà bien. Mais le cran d'au-dessus, c'est dire « Est-ce que je suis libre dans mon assiette quand j'y mets ce que j'y mets ?» C'est la vraie question à se poser.
C'est intéressant, en fait, ça.
La plupart du temps, je dis « on » parce que ça peut m'arriver aussi, on n'est pas totalement libre. Parce que quelque part, tu vois, là, je suis à Lisbonne, j'étais obligée d'aller faire quelques courses pour manger. Je me suis retrouvée devant... Bon, déjà, je ne comprends pas trop ce qu'il y a sur les compositions. Mais bon, j'ai lâché, hein, je me suis dit « tant pis, il faut qu'on mange, voilà, c'est pas grave, je sais pas où sont les marchés, là, c'était hier dimanche, voilà ». Mais je lâche, mais je suis pas libre dans ce que je mange. J'ai dit ok, je vais me nourrir, mais ça va pas me nourrir, ça va rassasier quelque chose. Donc tu vois, il y a la liberté de se dire est-ce que je suis libre dans mon assiette. Et pour moi, faire soi-même, c'est acquérir un petit peu de liberté, un peu beaucoup même.
C'est hyper intéressant. Et surtout, que est-ce que finalement, quand on va dans les supermarchés, on achète pour se nourrir et pour se faire du bien à notre corps, à notre mental, à nos enfants, notre foyer, ou parfois on se demande est-ce qu'on n'achète pas aussi juste pour un plaisir immédiat, un goût. Par exemple, une pâte à tartiner très connue, je ne citerai pas le nom, quoi qu'on aurait le droit puisque nous sommes sur un podcast indépendant, mais bon, vous l'avez compris. Est-ce qu'on l'achète pour un plaisir juste immédiat? C'est évident, je pense que oui, quelque part, dans la réponse. Je sais, mon conjoint est un gros consommateur de ce produit-là. C'est un plaisir immédiat. Il n'y a pas la question de, en effet, je m'en fous de la compo, parce que généralement, tous ceux qui achètent ce type de produit, comme mon conjoint, il n'en a absolument rien à faire de la compo à l'intérieur. Et quand je lui parle justement de, oui, mais tu ne sais même pas ce que tu manges, et le bien que ça pourrait faire, ou le mal plutôt, à ton corps... Ce n'est pas un sujet, c'est le plaisir immédiat qui compte. Donc est-ce que finalement, avec l'industrie agroalimentaire, on n'est pas arrivé à une phase où l'alimentation devient uniquement un plaisir immédiat plus que l'essence de notre véhicule?
Ouais, alors je vais te dire, je ne sais même pas si c'est du plaisir. Pour moi, c'est de l'addiction. Je ne sais pas tout à fait pareil, parce que pour moi, dans le mot plaisir, quand je veux me faire plaisir, je vais choisir un aliment... en liberté, c'est-à-dire ah oui, aujourd'hui je sens que j'ai envie de citron, tu vois, j'ai un citronnier en face de moi, j'ai envie de citron, ok, c'est ça la liberté. Mais parce que ça vient pas, comment dire,
d'un marketing aussi.
Oui, et ça, ça dépend pas de quelqu'un d'autre. Alors que là, je te donne l'exemple qui n'a, enfin ça, je sais pas si je t'en ai parlé. J'ai une voisine qui a un chat, et quand elle est pas là, on s'occupe mutuellement de nos chats. Et il y a quelque temps, quand elle est pas là, elle leur donne des petites boîtes dont je tairai le nom, mais tu sais, ça fait comme une pâtée là. Donc je dis bah ok, j'en donne. Puis je voulais pas lui laisser la boîte vide dans son dans sa cuisine. Je dis bah je la ramène à la maison et je mets la boîte vide dans le sac jaune hein, chez nous dans le sac jaune. Et là, mon chat à moi qui n'a jamais mangé un truc pareil, jamais, il mange que des croquettes avec une composition aussi intéressante. Donc il a jamais mangé ça. Il ne mange rien d'autre que ces croquettes. Tu lui mets un bout de jambon, il en veut pas. Enfin il est très particulier, mais il en veut pas. Et là, il se plante devant la poubelle et il miaule comme jamais je ne l'ai vu miauler. Mais comme vraiment un enfant qui veut un bonbon. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. Je vais voir. Et en fait, il avait senti l'odeur qui restait dans la boîte de pâté de ce chat. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans les aliments pour chats, pour animaux, qui le rend si addict, dépendant. En fait, dépendant. Bon, je vais pas chercher. Que de toute façon, voilà. Mais je, par extrapolation, je pense que la même chose se produit dans les aliments ultra transformés que nous ingérons. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir addictif certainement dû au sucre, hein, il n'y a pas de mystère, qui fait que, parce que, qui fait qu'on a envie d'y revenir. Donc tu vois, c'est même pas du plaisir. Pour moi, c'est, on est à l'opposé de la liberté, là. Mais sans le savoir. Et il faut savoir que dans le cerveau, le sucre se loge à la même place que lorsqu'on se drogue. Donc c'est une drogue. Et effectivement, comme il est caché dans tous nos ingrédients, on ne le voit pas. Donc on ne le sait pas. Et puis de toute façon, on n'a pas envie de le voir quand on est addict. Donc c'est une addiction qui n'est pas, on va dire, dangereuse en soi dans l'immédiat. À terme, c'est bien sûr, c'est un...
Bah, c'est intéressant justement ce que tu dis sur c'est pas dangereux dans l'immédiat, parce que ça me fait me soulever. On en a parlé hier dans notre live, la question de est-ce que c'est du poison. Et quand on regarde nous par exemple des retours de courses sur YouTube, parfois on voit les mamans montrer plein de produits ultra transformés, des gâteaux, etc., des brioches, du Nutella, etc., en disant « ça, c'est le petit déjeuner pour les enfants ». Et quand quelqu'un lui dit, par exemple, « oh, c'est pas très bon de donner ça à son enfant, en plus, en première prise matinale, première prise de la journée, tout ce taux de sucre et de chimique », et elle répond « ça va pas les tuer ». Et avec Marisa, on s'est dit « ouais, c'est vrai, en soi, si je lui donne là maintenant » à ma fille, par exemple, du Nutella, c'est sûr que immédiatement, c'est pas comme si je lui ai donné de la mort au rat, elle va pas tomber par terre. Elle va pas tout de suite, hop, mourir, et là, ce serait en plus, là, en plus, on dirait que c'est la maltraitance. Ça qui est
ça
drôle.
Ça serait contre-productif pour l'industriel, hein, parce que t'en rachèterais
pas. Complètement, t'en rachèterais pas. Mais là, on dirait qu'on est maltraitant. Si je donnais ça, par exemple, la mort au rat à ma fille, elle meurt tout de suite, c'est la maltraitance. En revanche, donner des produits ultra transformés, qui pourront être délétères plus tard, bah finalement, l'industriel ou l'État ne dit pas, attendez, c'est limite de la maltraitance aussi quelque part. Mais comme on n'est pas informé, bah on le sait pas.
Alors en fait, on n'est pas informé. Pourtant, il y a énormément d'études aujourd'hui scientifiques et depuis plusieurs, beaucoup d'années, au moins 10-20 ans maintenant. Parce que tout ça date des années 80, hein, tous ces aliments ultra transformés. On sait aujourd'hui que c'est délétère. Mais ça ne se sait pas, on va dire, ça ne se dit pas comme tu parles de la mort au rat. Pourquoi ? Parce que les lois sont faites de telle sorte que, effectivement, les dosages, tu parles du Nutella, le dosage du Nutella, des produits, on va dire, des conservateurs, etc., sont contrôlés pour une consommation d'une certaine quantité de Nutella par jour, point. Sauf qu'en fait, tu ne consommes pas en aliments transformés, la majorité de la population ne consomme pas que du Nutella. Poisson pané, gâteau, biscuits, plats préparés, cantine, faut pas fermer les yeux là-dessus. Hein. Y a très peu de cantines qui font eux-mêmes leur cuisine. Donc elles vont chercher en fait leur plat dans une cuisine qui transforme, voire qui réchauffe des aliments en conserve, etc. Donc les enfants qui mangent tous les jours à la cantine peuvent potentiellement manger des aliments ultra transformés. Donc ce qui compte quand tu parles du mot poison, c'est la dose. Une fois de temps en temps, tu donnes à ta fille un petit peu de Nutella. Évidemment, ça va pas la tuer, comme tu dis. Mais dans 10-15 ans, si tous les jours, elle mange des aliments ultra transformés, on le sait aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun doute. Je crois qu'il y a 35 ou 36 études là-dessus. Il n'y a aucun doute. On le sait que la somme de ces additifs, de ces produits chimiques, de ce sucre dans le corps provoque des maladies, on va dire, dégénératives, des maladies du système nerveux, des dépressions, ce qu'on appelle, nous, en naturo, en fait, des maladies d'encrassage. Donc, c'est peut-être plus facile à comprendre. Je vous explique. Le corps, en fait, il ne reconnaît pas. Ça n'existe pas dans la nature. Un additif chimique n'est pas existant dans la nature. Donc, le corps, lui, il ne sait pas ce que c'est. Donc, quand on l'ingère, il va pas l'utiliser. Ça sert à rien. Je veux dire, il n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet additif, dans le corps? Il va être stocké, il va passer par tous les filtres de nettoyage que sont le rein, les poumons, la peau, le foie, tout ça. Voilà, chaque organe va faire son petit travail de nettoyage, mais l'additif, il va être toujours là. On ne sait pas quoi en faire, en fait, si tu veux. Globalement, alors, soit on va en évacuer une certaine partie par nos urines, par nos selles, mais il y en aura toujours qui vont être stockés dans le corps. Et c'est cet encrassage qui ne se voit pas. Je veux dire, on ne voit pas qu'on a un stock d'additifs dans le corps. Par contre, à un moment donné, pour une raison X ou Y, un trop-plein, une fatigue, un choc nerveux, etc., un choc émotionnel, enfin bref, là, les déchets vont provoquer chez nous, si tu veux, une maladie. Alors, chacun va faire une maladie différente en fonction de son fameux terrain, dont on a parlé déjà plusieurs fois. Et là, vont se déclencher une dépression, une maladie auto-immune, un cancer. Voilà. On n'a pas, si tu veux, le cancer, par exemple, il n'y a pas une origine. C'est une multicausalité de choses, dont l'alimentation fait partie. Dont l'alimentation ultra transformée.
C'est intéressant que tu reparles des terrains parce que pour les personnes qui vont écouter là, elles savent pas de quoi on parle. parce que les terrains, on en a beaucoup parlé, mais c'est sur la plateforme Intention. Mais je vous mettrai le lien dans les notes du podcast sur la chronique qu'on avait fait sur les terrains. Est-ce que tu peux redire juste une phrase sur les terrains et pourquoi tu dis justement, selon son terrain, on peut savoir plus ou moins, entre guillemets, hein, c'est vrai, enfin, en grosso modo, hein, quel type de personnalité on a et surtout aussi quel type de maladie potentiellement on peut avoir. C'est pas gravé dans le marbre, mais c'est hyper intéressant de voir. Moi, dans mon entourage par exemple, je vois mon père qui a diabète et cholestérol, ça va très bien avec son terrain, c'est collé. Donc si tu peux redire juste une phrase sur ça.
En naturopathie, on regarde ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire un ensemble d'abord de signes morphologiques. Donc des signes que nous donne le corps, comme la forme du corps, la couleur de la peau, la forme des mains, est-ce qu'on a les mains chaudes, mains froides, la forme du visage, etc. Et ça nous donne une indication sur quels organes vont plus être sollicités dans le corps de cette personne. Donc on a quatre terrains. Alors voilà, quatre terrains, j'essaye de faire simple. Le sanguin, plutôt trapu, bon vivant, on va dire. Et puis, on sait que lui, il va falloir surveiller tout ce qui est circulation, en fait, et cœur. Circulation sanguine et cœur. On va avoir le bilieux, c'est celui qui se fait de la bile. Donc, quelqu'un qui s'inquiète et qui ne sort pas ses inquiétudes. Et donc là, nous, on sait qu'on va devoir regarder ce qui se passe au niveau de son foie. On va avoir le nerveux, qui est une personne très longiligne, toute fine, etc. Puis qui va plutôt, elle, aller vers des pathologies dépressive, mentale, en fait, avoir du mal à dormir, cogiter, ressasser, et au bout d'un moment, peut-être faire une dépression. Et puis, on a la quatrième catégorie de personnes qui sont les lymphatiques, donc des personnes qui vont doucement, qui sont souvent un peu pleines d'eau, tu vois, qui ont un corps plutôt blanc, avec des doigts un peu épais, de l'eau, en fait, hein. Et là, on sait, elle, qu'il va falloir stimuler tout ça, et que c'est leur système lymphatique, et donc le système de nettoyage, qu'il va falloir surveiller. Donc, c'est très grossier ce que je te dis là, parce qu'après, on va beaucoup plus loin en consultation, mais du coup, ça nous aide. Quand chacun sait ça, effectivement, on sait qu'il va falloir faire attention à tel organe dans le corps. Donc, ce qui veut nous dire, on est tous différents. Donc, on ne va pas tous déclencher les mêmes maladies. Oui. C'est ça, la diversité.
Mais c'est super. Je vous mettrai de toute façon le lien, parce que ça dure au moins une heure, cette chronique. Là, Claudie vous a fait vraiment un résumé. C'est logique, hein, parce qu'on ne va pas faire tout. Ce n'est pas le but ici. Mais c'était hyper intéressant, justement, de savoir un peu que ça revient en fait, finalement à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, ça ne va pas le tuer, mon enfant ou moi-même, hein, enfin mon enfant, moi-même, peu importe, hein, ou la famille, ou l'entourage, ça ne va pas me tuer là, maintenant. Mais en effet, à moyen et long terme, il y a des maladies qui vont arriver, qui pourront potentiellement en plus nous tuer. Moi, je veux dire, par exemple, je ne sais pas, mon grand-père qui est décédé d'un... Je ne sais pas moi, je ne sais plus de quoi, mais c'était des maladies style... cholestérol, donc arrêt cardiaque, etc. En même temps, vu son alimentation, mais ça, on ne va pas le dire. On ne va pas dire, ah bah cette personne, elle est, je sais pas moi, elle a une grosse maladie incroyable, par exemple du cholestérol. On ne va pas se dire, oui, mais c'est peut-être dû à son alimentation. On va se dire, oh, il a toujours été comme ça. Il a toujours.
Et les médecins disent, mais tous, hein, on dit, oui, vous avez du cholestérol, mangez pas trop de gras, mangez voilà. Pas. Voilà. Mais. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire que, effectivement, pas de gras, bah, voilà, il faut faire du sport, on est d'accord. Bon. Mais l'alimentation ultra transformée, elle est beaucoup plus pernicieuse que ça parce que ça se cache dans des aliments qui paraissent sains. Tu vois, par exemple, du jambon. Le jambon, c'est une viande, voilà, qui n'est pas une viande rouge. Donc, du coup, tu te dis super, j'en mange. Sauf que le jambon, pour être conservé, il est rempli de sel nitrité. Donc, il est rempli de conservateurs pour pouvoir le garder sous plastique si vous l'achetez sous plastique. Et même quand il est fait de façon industrielle, il faut bien le conserver longtemps parce qu'il faut bien imaginer qu'un jambon, je ne sais pas combien de kilos ça fait, mais c'est une grosse bête quand même. Hein, voilà. Donc, si vous êtes dans un supermarché où il y a du débit, bah oui, dès que le vendeur va l'ouvrir dans la journée, il va partir très bien. Mais il peut aussi partir en 2-3 jours. Donc, imaginez, il a été fait peut-être le jour 1. Il faut qu'il soit transporté. Donc, déjà, il faut qu'il soit acheté, transporté, stocké dans le magasin, ensuite vendu. Donc, il peut se passer, je ne sais pas, au bas mot, peut-être une semaine, 10 jours, je n'en sais rien. Mais tout ça, il faut que ce soit, il faut que le jambon, il arrive sur l'étal du marchand et dans votre assiette, toujours de la même couleur, toujours le même goût, toujours. Eh ben, tout ça, il faut que ce soit transformé chimiquement. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, seul, à la rigueur, le charcutier qui fait lui-même son jambon et qui accepte d'en perdre une certaine partie s'il ne met pas trop de produits chimiques dedans, donc vous allez le payer un peu plus cher puisque lui, il va avoir de la perte. Là, oui, effectivement, il y aura moins d'intrants chimiques. Donc, tu vois, tout se ramène quelque part au prix. Hein, il faut être clair. Quand on achète quelque chose, un aliment qui est assez cher, c'est pas souvent parce que le producteur dit « Oh non, mais moi, je vais vendre ça cher, super, ça va passer. » Non, c'est que la plupart du temps, c'est que c'est fait de façon soit artisanale, soit traditionnelle, et c'est fait pour ne pas être gardé longtemps. Donc, le risque de perte est plus important. Donc, puisqu'il y a risque de perte, je suis obligée de le vendre un peu plus cher. Donc, nous, en tant que consommateurs, quand on accepte de payer un produit un peu plus cher que sous plastique dans une grande surface voilà, qui est là depuis longtemps, eh bien, on fait un choix. C'est ça, la liberté, tu vois. C'est pour ça qu'on revient toujours à ça, en fait. Et en faisant maison, pour moi, on gagne un cran de liberté.
Mais c'est hyper intéressant parce que ça me rappelle trop mon papa il y a quelques mois. J'achète mon jambon chez à la ferme. Et l'autre fois, je demande au charcutier, il se conserve combien de temps votre jambon ? Il me dit, bah là, on est... donc je l'avais acheté le vendredi. Il me fait, faut le manger aujourd'hui et demain. Dimanche, c'est déjà un peu trop tard. Et je lui dis, bah, je lui demande, est-ce qu'on peut le congeler ? Il me dit, ah non, le jambon, ça se congèle pas, etc. Et du coup, je lui dis, bah, pas de souci. Du coup, bah, oui, ça coûte un peu plus cher, mais t'en achètes moins. Parce que autant, par exemple, du jambon industriel, tu vas pouvoir acheter le paquet de 6, 7, 8 tranches. Parce que tu sais que tu as laissé au frigo et tu vas pouvoir le bouffer. Alors que, et même parfois, je me souviens, moi, à l'époque où j'achetais du jambon sous vide, là, je ne le couvrais même pas. C'est-à-dire que j'ouvrais la petite, l'opercule, je prenais ma tranche et je reposais l'opercule qui était à moitié ouverte. Et limite, après, c'était un peu dur, là, et je le mangeais quand même. Hein, donc, c'est pour te dire, ça, c'est vraiment... Et du coup, j'en achète que 2 tranches, puisque je sais que... Il va falloir le manger en 24 heures. Bon, bah, je vais acheter que 2 tranches. Et j'en ai, une fois, j'en achète 4 tranches parce qu'on était 4 à la maison. Et je pars. Et mon père qui était chez moi ouvre le frigo, voit mon jambon qui est donc gris, parce qu'il est absolument pas rose. Quand il n'y a pas de conservateur, etc. dedans, bah, il est gris. Et mon père, donc moi, je rentre le soir à la maison et je cherche mon jambon. Il me dit, oh ma fille, je t'ai jeté le jambon parce que il était passé, il était tout gris, donc j'ai jeté à la poubelle. Mon jambon qui m'a coûté limite 4,50€ les 2 tranches, 5€ les 2 tranches, tu l'as jeté à la poubelle. Et là, on s'est dit, on a beaucoup rigolé avec ça avec mon père parce qu'on s'est dit, même mon père qui, tu vois, a 60 ans, il y a toute une éducation à faire pour lui expliquer que, ben, en fait, non, ce produit était hyper bon, mais pour toi, il est, alors que pourtant, c'est une génération qui a connu logiquement ce jambon gris. Donc c'est ça qu'on se dit, oui, c'est plus cher, mais on en mange aussi moins parce que ça se conserve aussi moins quelque part.
Et puis quand on dit c'est plus cher, ça peut faire peur parce qu'effectivement il y a des enfants, mais en fait moi je pense que dans l'équation on peut se permettre d'acheter un peu plus cher certains produits qu'on ne peut pas faire soi-même. Je veux dire, vous n'avez pas encore fait de recette sur le jambon, les filles. Je trouve que ça ne va pas du tout. Donc, les produits qu'on ne peut pas faire soi-même, moi, je suis prête à y mettre un peu plus cher, car de qualité. Et le reste, je fais moi-même. Donc, l'équilibre, il se retrouve plutôt que d'acheter tout prêt, plutôt que d'acheter effectivement déjà préparé ou conserve, etc. Globalement, quand on va sur le marché, acheter 1 kilo de carottes, ça ne coûte pas très cher. Si on achète une barquette de carottes râpées déjà prête, bah ça coûte beaucoup plus cher. Certes, ça va plus vite. Mais c'est là où on fait un choix, en fait. En tant que consommateur, on a des choix. Donc moi, je trouve que le bon choix, c'est d'acheter des produits de qualité, de payer certes un petit peu plus cher, comme tu dis, pour être sûr d'avoir de la qualité. Et tout ce que je peux faire, je le fais. Et c'est vrai que, du coup, les conseils que vous donnez pour dire, voilà, comment on cuisine soi-même, comment on s'organise, les meal prep, etc., ça nous fait gagner du temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent tout prêt, je pense, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir le temps ou qu'ils ne sont pas organisés. Ou...
Mais très souvent, ce qu'on nous on voit sur la plateforme, mais surtout sur Instagram, dans des commentaires qu'on a, c'est que les personnes ne savent pas faire la cuisine.
Ben oui.
Et c'est pour ça ce but de cet épisode, c'est qu'il faut absolument qu'on reprenne tous le pouvoir de notre cuisine, mais c'est compliqué quand la génération de nos parents... On fait le choix, bah, et que je comprends tellement de l'émancipation de la femme, etc. On peut faire autre chose qu'être comme nos mères, à être dans la cuisine toute la journée pour faire à manger. On s'émancipe, les industriels ont bien compris. Super, on va nous proposer des produits pratiques pour les femmes, parce que ce qui est très drôle, et c'est ça qui est très drôle, regardez un petit peu les livres de cuisine d'une autre époque, hein, c'est très drôle, les livres de cuisine de ma mère, où je vois, c'est écrit pour la ménagère, on parle que de la femme. Hein. Et les industriels ont créé quand même beaucoup pour la femme, pour les aider à vivre justement cette vie de plus de liberté. Mais du coup, nous, en tant qu'enfants de cette génération-là, on n'a pas vu nos mères cuisiner. Et du coup, beaucoup nous disent, mais... Moi, je ne sais même pas faire, par exemple, on avait une copine, c'était ça. Elle ne savait même pas faire une sauce tomate. Elle ne sait même pas faire cuire des pâtes. Une copine, elle ne savait même pas qu'il fallait mettre de l'eau dans les pâtes. Et du coup, elle avait mis ses pâtes dans la casserole et qui n'a pas compris pourquoi ça avait cramé. Je lui ai dit, mais tu n'as pas mis d'eau. Mais je ne savais pas qu'on mettait de l'eau. Donc, on est quand même dans un système où il faut revenir à la cuisine, Mais comment on fait quand, bah justement, on n'a pas appris? Et maman, papa ne nous ont pas appris à cuisiner aussi.
Bah oui, c'est tout ce qu'on a dit, c'est avoir conscience. En fait, avoir conscience que ce que l'on met dans son corps a une importance énorme sur notre santé et sur notre bien-être en général et notre longévité, etc. Et puis peut-être aussi valoriser, ça commence à être pas mal revalorisé grâce à vous, plein d'émissions de télé, je pense, sur la cuisine, tout ça, ça revient. Et puis il faut oser se tromper, s'amuser en cuisine, commencer par des choses simples. Voilà, la cuisine, moi, ce qui m'épate toujours en cuisine, je cuisine beaucoup quand même, j'adore ça, c'est que tu fais toujours des choses nouvelles. En fait, tu dis, on n'a pas 50 000 ingrédients différents, et malgré tout, on fait toujours... une sauce tomate, elle ressemble jamais à la sauce tomate d'hier. Tu vois,
jamais.
C'est drôle, hein. Nos pains, tout ça, ça ressemble pas. Et donc, du coup, je pense que faut reprendre du plaisir à faire soi-même. Il faut y aller doucement. Il faut pas se mettre la pression. Si vous avez envie de vous y mettre, faut commencer petit. Faut faire des plats qui nous plaisent, des aliments simples. Enfin, ça c'est vraiment très très important. Tu vois, il y a certainement quelques basiques par lesquelles commencer. Je sais pas, je me rappelle avoir commencé à cuisiner à la maison quand les enfants sont nés. Pour moi, ça a été un vrai déclic. Avant, je savais pas tellement cuisiner, hein. Rien du tout, même. C'était un peu la panique. Et puis quand les enfants sont arrivés, là, tu commences à te dire, qu'est-ce que je leur donne à manger? Et là, ça a commencé à me trotter dans la tête. Non, je ne veux pas leur donner des petits pots. Tu vois, il y a la notion de bien-être.
Parce que oui, à cette époque-là, tu n'étais pas naturopathe.
Pas du tout. Il y a 25 ans, pas du tout. Je ne savais même pas mettre le foie dans le corps. Je ne savais rien de tout ça. Numérus, tout ça, je ne savais pas. Non. Et pourtant, je pense que la conscience de prendre soin de son enfant me dictait de faire attention à ce que je lui donnais à manger. Tu vois? Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, il y a des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Mais je ne suis pas allée beaucoup plus loin. J'ai fait mes propres carottes, tout ça. C'est après où là, j'ai commencé à prendre encore plus conscience de ces intrants chimiques, etc.
Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu parles des enfants, on est suivi quand même par beaucoup de mamans. Oui, moi je parle de maman. Alors, je sais qu'on dirait oui, mais c'est un peu sexiste de mettre la femme dans la cuisine. Mais on est suivi par des femmes, donc c'est les mamans qui nous parlent. C'est pas les papas, hein. Ils sont pas exclus, mais en tout cas c'est elles qui nous parlent. Donc je parle de maman, mais c'est pas du sexisme, c'est juste la réalité de notre chaîne. Justement, quand on parle des enfants, c'est quoi finalement le danger, ou même je dirais plus, non, on va faire différemment. C'est quoi le bénéfice ou les bénéfices à cuisiner maison dès le plus jeune âge pour son enfant?
Eh bien, c'est Alors, par quoi je vais commencer? Les bénéfices, c'est d'abord de lui fournir les nutriments dont son corps a besoin pour grandir. On a besoin de protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux. Dans les aliments ultra transformés, c'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire qu'il y a tellement de produits transformés chimiquement dans ces aliments, le corps ne les reconnaissant pas, il ne va pas s'en servir. Donc en fait, on va faussement nourrir son enfant. C'est-à-dire on va lui donner du sucre, on va lui donner, donc il va avoir de l'énergie, mais il n'aura pas tout ce qu'il faut pour bien grandir. Pour autant, vous le verrez grandir. Après, il sera peut-être très enrhumé, il aura peut-être des problèmes de peau, il aura peut-être des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Tout ça parce que pour que sa machine corporelle fonctionne bien, il lui faut des vraies protéines, des vrais lipides, des vrais glucides, des vraies vitamines et minéraux. Or, dans ces aliments ultra transformés, on peut dire, tiens, simplement, ils sont morts. Je veux dire, il n'y a pas de vie, tu vois, dans ces aliments. Donc, ils ne peuvent pas nous nourrir de vitalité. Hein? Donc l'enfant, il va grandir, mais parce qu'il a une énergie, on va dire, en lui, mais globalement, ça n'ira pas forcément très bien. Ou il va être très énervé, tu vois, il n'y aura pas cette qualité de vie.
Mais généralement, on ne se rend pas compte, on ne se dira pas que mon enfant est énervé parce qu'il a mangé des céréales au petit déjeuner.
Non,
ou en tout cas, la quantité de transformer, on ne dira jamais ça.
Non, on ne dira jamais. Pourtant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, là encore, par exemple, dans les écoles, où on a fait des études sur des enfants en leur enlevant le sucre de leur alimentation. Et les classes étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calmes. Donc, si tu veux, il ne faut pas culpabiliser les mamans. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on apprend tous les jours, en fait. Mais donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles il faut nourrir avec des aliments les moins transformés possibles ces enfants, c'est qu'ils ont besoin de vrais, vrais nutriments. Une autre raison, c'est développer leur goût. En fait, l'intérêt des industriels, c'est que vous achetez un paquet le jour 1, le jour 10, vous achetez le même paquet, il aura le même goût. T'imagines ? S'il n'a pas le même goût, tu vas être déçu, ou bon, voilà, donc tu ne vas pas le racheter. Donc il faut qu'il y ait le même goût. Donc en fait, nos goûts vont être de plus en plus lissés si on mange que ultra transformé, en gros très sucré, en gros très salé. Et donc du coup, le goût est lissé. Tu as déjà goûté des petits pots pour bébé. Perso, je ne fais pas la différence entre petits pots et brocolis en fait.
Ah non, c'est clair, c'est clair.
La plupart du temps. Mmh. Alors que nous, quand on les fait, on sait pertinemment qu'on a fait des petits pois ou des brocolis. Donc, tu vois, c'est développer leur goût, mais aussi accepter que l'enfant dise « c'est pas bon, j'en veux pas ». Alors qu'avec des petits pots, bah, les enfants, globalement, ils peuvent dire tout le temps « oui, c'est tout le temps le même goût ». En fait, globalement, voilà. Donc, tu vois, il y a une sorte… c'est là où je reviens vraiment à la liberté, c'est qu'on se dit en tant que maman bah, « super, il aime les petits pots, c'est bien, il mange bien ». En fait, il mange toujours la même chose, ou presque, toujours le même goût. Donc ça, c'est une autre bonne raison pour développer leur goût, pour faire à manger à nos enfants avec des aliments les moins transformés possibles. Je pense qu'il y a une question de coût aussi, hein, et puis peut-être aussi une question de prendre soin. Enfin, c'est important, l'alimentation. Tout le monde est capable de dire « dans ma voiture, je dois mettre de l'essence si c'est une voiture essence », comme je dis tout le temps. Ou c'est du diesel, je mets du diesel. Mais dans le corps, c'est pareil. Notre essence est très importante, en fait. Ce qu'on y met dans le corps est très important. Donc, ça commence dès l'enfance.
Mais ça, c'est notre rôle à nous, de parents, finalement, de retourner dans la cuisine pour le faire. Alors que c'est vrai que très souvent, on va dire « oui, mais quand on devient maman, on est fatigué, c'est difficile ». Et on oublie qu'il y a des repas qui sont tellement simples que, en fait, peut-être que c'est aussi le biais des réseaux sociaux où on est allé dans un monde de la cuisine tellement élaboré, avec des photos tellement jolies, avec généralement des stylistes culinaires. T'as un photographe, on voit bien les comptes. Moi, j'adore, je trouve ça très beau quand je vois des comptes où tu as une personne qui a pris la photo, mais une personne qui a fait le stylisme et une qui a cuisiné. T'as donc trois personnes pour un plat. Je trouve ça fascinant, je trouve ça hyper beau, mais du coup, t'as ce côté où tu te dis, bah toi, ton assiette à côté de tes pâtes à la sauce courgette avec ton petit gruyère dessus,
c'est moche.
Moi, j'ai pas de styliste qui vient chez moi pour faire mon assiette, j'ai pas une photographe qui vient, etc. Et c'est le biais aussi des réseaux où on a oublié qu'il y a des repas qui sont maison, faits en 3-4 minutes, et qui sont tout aussi bons pour nous et pour nos enfants. Peut-être le biais aussi des... Nos parents avaient moins ce côté-là, de faire quelque chose d'hyper artistique.
Alors ça, c'est extrêmement important, je trouve. C'est comme pour tout, de ne pas se mettre la pression. C'est-à-dire, c'est quoi votre meilleur souvenir culinaire? La plupart du temps, c'est une purée maison. Des haricots verts avec du beurre dessus. C'est des patates au four. Mais il n'y a rien de... Je veux dire, il n'a pas fallu 3 stylistes, 4 photographes pour faire ça, en fait. Hein. La grand-mère, elle n'avait pas ça, tu vois. Donc, effectivement, c'est revenir à l'essentiel. Faire simple. Et quand tu regardes, même dans le monde artistique ou dans le monde de l'art, effectivement, faire simple, c'est beau. Et ben, en cuisine, pour moi, c'est pareil. Une belle purée, un beau plat de haricots verts, allez, un tout petit peu de persil dessus, un morceau de beurre, mais c'est magnifique, mais magnifique. Et le temps qu'on y a passé est très court. Et du coup, on a du temps pour faire autre chose. En fait, il ne faut pas se mettre la pression. Un poisson, il n'est pas forcément pané, quoi. Il est fait dans le beurre, dans l'huile d'olive et point. Sur un lit d'oignon, et c'est fait, en fait. Tu vois, pourquoi le paner? Pourquoi? Oui, de temps en temps, quand on a le temps. Mais quand on n'a pas le temps, pas de problème. Tu vois, alors, Je sais pas pourquoi je pense à la panure qu'on achète. On peut se dire, par exemple, ça, c'est pas un aliment ultra transformé. Mais en fait, si. Parce que le pain a été certainement transformé, parce que c'est des résidus, parce qu'il a fallu mettre un peu de conservateur, etc. Quand vous avez du pain dur, vous le gardez, vous le mettez dans votre robot, et puis tout simplement, vous le moulinez, et ça fait la chapelure, en fait.
Allez toujours chercher la simplicité des choses. Ça, c'est très important. Je te donne un exemple. Je suis en train d'aider une jeune fille là, qui a besoin en maths, donc je lui donne des cours de maths. J'aime ça, les cours de maths. Donc, je lui donne des petits cours de maths. Et en fait, on se rend compte en discutant qu'il faut simplifier les choses. Et plus on simplifie, par exemple en maths, eh bien, plus elle comprend. Ben, je trouve qu'en cuisine, c'est la même chose. Et quand on a acquis de la confiance parce qu'on a simplifié, parce que nos pommes de terre sont bien cuites, parce qu'elles sont bien rissolées, parce que ceci, alors on passera au niveau... expert avec trois photographes et quatre designers, tu vois.
Et en plus, ça, c'est des moments où on prend justement le temps. Tu vois, je vois, moi, quand je fais un gâteau, c'est un cake maison. Voilà, ça me prend, allez, un cake, ça prend 10 minutes, tu mets au four et t'en parles plus. Et parce qu'après, tu as acquis justement de la confiance, que je me suis dit, bah, à l'anniversaire de ma nièce Gemma, ah bah, j'ai envie de faire un gâteau, mais là, pour le coup, oui, j'ai passé tout mon vendredi et mon samedi matin. Ça a été hyper long. Mais parce que j'ai suffisamment confiance dans ma cuisine pour faire ça une fois dans l'année. C'est pas comme si je m'amusais à faire ça tous les jours. Et ça me fait penser aussi quand ma mère faisait toujours des pommes de terre rissolées à la poêle. J'ai mis énormément de temps à les faire parce que ma mère, c'était fondant, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Impossible, à chaque fois que je les faisais, moi, c'était jamais cuit. C'était cramé autour et pas cuit à l'intérieur. Et j'ai mis du temps à me dire, mais comment je vais faire? Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait juste, en fait, fermer ma poêle, mettre un couvercle, chose que je ne faisais jamais. Moi, je laissais à l'air libre, en fait. Et de ce jour-là, quand j'en fais à ma famille, tout me dit, mais c'est tellement bon tes pommes de terre rissolées. En fait, ça m'a pris 15 minutes. Mais je suis d'une fierté de les avoir fait parce que je suis là. Ah, mais en fait, c'est si simple que ça. Oui, parfois, c'est si simple que ça. Et on oublie la simplicité. Et ça, je pense que c'est le biais, oui, des réseaux sociaux où on est dans un système de perfection, beaucoup, où on va tous au plus parfait, alors que finalement, tes enfants vont adorer de manger, je sais pas moi, une purée avec des carottes râpées et un steak haché.
Oui, il y a une vraie... Alors, il y a de la confiance en soi, et puis il y a l'éducation. Hein. C'est vrai que moi, j'entends là des mamans qui vont dire « Oui, mais moi, mes enfants, si je leur fais une purée, ils n'en veulent pas. » Parce qu'en fait, quand on passe d'une alimentation ultra transformée avec beaucoup de sel, beaucoup de sucre, il faut bien imaginer que leur palais, il n'est pas prêt à tant de simplicité et presque à tant de goût. En fait, c'est vraiment... Ils ne sont pas prêts à ça parce qu'ils sont habitués.
Eh bien, justement... Est-ce que tu as des conseils pour contrecarrer ces effets parce que je sais que les personnes qui vont nous écouter là, très souvent, et nous aussi, hein, il y a quelques années, sont des personnes qui ont mangé tellement transformé que quand on leur dit de faire une soupe, bien sûr que j'imagine très bien que ça doit être une explosion en bouche assez incroyable. Quels sont aujourd'hui des conseils pour contrecarrer ces effets de la transformation dans notre cuisine? Comment on peut faire dans notre cuisine aujourd'hui pour quand même reprendre le goût sans se dire « bah non, je vais retourner au transformé parce que vraiment, ce que je mange dans ma cuisine, le fait maison, bah c'est pas bon. »
Alors, pour moi, le premier truc, c'est des aliments de base de qualité. C'est-à-dire, si t'achètes une carotte en supermarché qui est restée 3-4 jours sur l'étal, qui a déjà été cueillie 3-4 jours avant, bah elle n'a pas de goût, quoi. Elle n'a plus de goût, elle est morte, en fait. Donc, elle n'a plus de goût. Donc, il faut vraiment avoir des aliments de qualité. Donc là, c'est du frais, du local, du marché, enfin, tous les conseils que vous donnez là-dessus. Vraiment, pour moi, tu ne peux pas construire une maison si tes briques ne sont pas de bonne qualité. Ta maison, elle ne va pas tenir. Bah là, c'est la même chose. Les plats, si vous achetez des aliments... qui n'ont pas de goût, en fait, qui n'ont pas une qualité suffisante, eh bien, ils n'auront pas de goût. Donc, bah, il va falloir utiliser tout un tas de subterfuges pour donner du goût. Donc, ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, pour moi, il faut ajouter les industriels mettent des exhausteurs de goût. On peut tout à fait, nous, travailler à rajouter dans l'aliment un bon beurre. Pas une margarine, hein. Je parle pas de margarine, qui a pas de goût. Du vrai beurre, là encore, on n'en mettra pas beaucoup. On peut rajouter beaucoup d'épices. Il y a les cuisines du monde, tu vois, là, je suis à Lisbonne, mais il y a des épices, ça sent bon, enfin, il y a des épices, donc on peut rajouter ça. On peut mélanger aussi, c'est-à-dire que on peut mettre dans une même assiette des pommes de terre avec des haricots, avec des carottes, pas forcément tout mélanger ensemble dans l'assiette, mais demander aux enfants de picorer. Et puis, bah, y aller doucement, c'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est accepter que redécouvrir le goût, ça prenne du temps. C'est pas la première fois que vous allez présenter un plat qu'ils vont vous dire peut-être « Oh, super, c'est extrêmement bon !» Ben, il faut persévérer, tu vois, c'est vraiment très important. Dire « Ah, ok, vous n'allez pas aimer, bon, ben, la prochaine fois, je ferai mieux, en fait. » Et puis, petit à petit, vous y allez doucement, vous achetez de moins en moins de l'ultra transformé, ou dans une assiette, si vous avez l'habitude de mettre une purée toute faite et un poisson pané, ben, vous mettez un poisson pané, puis une purée pas toute faite, mais une purée faite maison. Tu vois, il faut y aller doucement, en fait. Faut être aussi doux et bienveillant avec les gens qui mangent avec nous et qu'ils aient le temps de s'habituer. Les papilles gustatives, ça met quelques semaines avant de se renouveler, donc il y a un petit peu de temps à prendre. Mais je pense que c'est, pour moi, le plus important, c'est ingrédients de qualité, vraiment.
Oui. Donc là, c'est se reconnecter avec d'autres façons de faire les courses.
Ouais, donc ça veut dire, t'imagines toutes les implications, mais j'en suis consciente, hein, avoir une organisation un peu différente, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, c'est peut-être très simple d'aller une fois au supermarché tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, et d'acheter des légumes sous vide, par exemple, qu'on va garder une semaine, 10 jours dans notre réfrigérateur, c'est tout à fait possible, hein, et à mon avis très courant. Mais au bout de quelques jours, elles n'ont plus beaucoup de goût. Hein, ils ont plus beaucoup de goût. Donc oui, il faut changer. Mais là encore, c'est quel choix vous voulez faire. Et je pense que si les personnes écoutent cet enregistrement, c'est qu'elles sont prêtes à faire des changements dans leur vie. Et il faut savoir qu'on n'a rien sans un investissement minimum, en fait, temps ou en énergie ou en argent si on peut. Mais c'est un équilibre. Mais au moins en temps. Et dire, bah, ok, le samedi matin, au lieu de je sais pas, on change d'organisation. Quand tu regardes le temps passé sur nos écrans, par exemple, je dis bien non, hein, parce que je me mets dedans, c'est énorme. Tu enlèves même 1 ou 2 heures par semaine et tu te dis, ces 1 ou 2 heures-là, je les consacre à aller au marché. Alors, il faut prendre un peu de recul sur ce qu'on fait de notre temps. Et moi je trouve ça vraiment très important, mais il n'y a pas que ça, il y a peut-être oser aussi aller sur le marché, tu vois, je pense que c'est pas si facile que ça pour beaucoup de personnes.
Et je les comprends parce que quand il y a quelques années j'habitais à Pau avec Karine, ma sœur, et qu'elle allait sur le marché tous les samedis, les premières fois elle m'a dit de venir avec elle, j'étais pas hyper à l'aise. Moi, je suis jeune. Enfin, j'étais jeune à l'époque. Enfin, je suis toujours, hein, mais j'avais... c'est il y a 10 ans, limite. Donc, j'avais 24 ans. Et moi, être là parmi une population qui était beaucoup plus âgée que moi, vraiment, j'étais pas à l'aise. Et au fur et à mesure, j'y suis tellement allée que maintenant... En plus, maintenant, franchement, même les visages du marché ont changé. Maintenant, il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de personnes qui ont envie, justement, de se reconnecter à de la bonne alimentation et s'éloigner de cette alimentation industrielle. Mais je comprends la peur que ça peut être, ou en tout cas, ce côté sortir de sa zone de confort, parce qu'au supermarché, on est tous pareils. On est tous pareils, on va tous aux mêmes endroits, on choisit quasiment tous les mêmes produits. On est dans un moule au marché... Chacun va choisir selon ses goûts, va choisir son petit producteur, va choisir en fait avec qui parler, comment parler, va poser des questions différentes, chose qu'on n'a pas au supermarché.
Ah non, mais ça c'est magique. Moi je fais les marchés toutes les semaines et je pose des questions aux certaines femmes que je rencontre. Je dis, mais toi tu les achètes tous, tes légumes? Elle dit, ah mais moi, ah bah, 9 fois sur 10. Hein. Alors moi les carottes, je les achète là. Le poireau, j'achète là. La salade, j'achète là. Je dis, ben, c'est dingue. Je trouve ça extraordinaire. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu crées un lien, en fait, avec le producteur. Déjà, on se regarde dans les yeux. Et puis, la semaine d'après, on se dit un bonjour, vous allez bien. Et puis, la semaine d'après, oh, ben, super, aujourd'hui, tu vois, quand on a enlevé les masques, oh, vous avez plus votre masque, je vois votre visage. Bon, voilà, ça, c'est du bonheur. Ça, c'est vraiment du bonheur. Mais je comprends qu'il faille un peu de courage pour y aller parce qu'il faut oser, en fait, se montrer. Faut oser choisir devant la personne. Alors que quand tu es au supermarché, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, alors je veux tant de carottes, je veux tant de poireaux. Là, il faut une interaction. Donc, tu vois, ça va même beaucoup plus loin, en te le disant, je pense à ça. Faire sa propre cuisine, c'est créer du lien avec les autres, en fait. En supermarché, bien sûr, tu peux faire ta propre cuisine au supermarché, mais globalement, si tu veux des produits d'extrêmement très très bonne qualité, il vaut mieux aller au plus près de chez toi et au plus local. Eh bien, tu crées du lien. Et ça, c'est magique. C'est quand même...
Et finalement, quand on reprend le pouvoir dans sa cuisine, on crée du lien, bien sûr, avec ceux qui nous nourrissent, hein, quand même. Merci à eux d'être là, ces producteurs. Et en plus, si on continue sur cette lancée-là, à continuer à manger hyper industriel, c'est des métiers qui vont disparaître. Et je me dis, mais quel sera notre monde demain ? Qu'est-ce qu'on va laisser comme planète et comme individu, comme être humain, à l'humanité, enfin à la planète, si on continue à donner le pouvoir aux industriels plutôt que donner le pouvoir aux agriculteurs qui font tout ça pour prendre soin de nous, en fait. Donc c'est assez fou, et surtout ça crée du lien donc avec ces intervenants, ces personnes, mais ça crée du lien aussi avec notre famille. Je veux dire, quand on fait à cuisine, on fait tous ensemble. Alors bien sûr, pas tous les jours. Je sais bien qu'on va pas faire tous les jours à ma fille de 2 ans et demi. Viens, on fait à manger aujourd'hui. Non, maman, elle est fatiguée. Si tu veux, va prendre ton bain et moi, je vais faire à manger. Mais ça crée du lien dans la cuisine aussi. De temps en temps, hop, bah, je coupe une carotte. La petite qui passe à côté, elle veut goûter. Maman, carotte, morceau. Dans le foyer, c'est-à-dire que ça crée une dynamique quand même d'aller faire le marché parfois ensemble, aller mettre un potager, même si c'est un truc ridicule, même si c'est juste un bac, ça crée du lien social qu'on a complètement perdu. Et l'alimentation fait le lien social aussi.
C'est clair. Non, c'est vraiment très, très important. Je pense, tu vois, dans le pouvoir, il y a quand tu as le pouvoir dans ta cuisine, tu as ta liberté dans ta cuisine, tu sais vraiment ce que tu mets dans ton corps. Et du coup, tu fais du bien, tu fais du bien à la planète. Enfin, ça va beaucoup plus loin que juste faire un repas. Mais comme en tant que maman, on fait souvent la cuisine pour d'autres personnes, on a une obligation de résultat. en tout cas, on se la met. On se met cette obligation de résultat. On est dépendant du regard de l'autre. Et ça, c'est pas toujours facile. Des enfants, du mari, etc. Alors que si on cuisine pour soi toute seule, on rate un plat, plein, un point. C'est pas grave, en fait. Donc, il faut aussi reprendre le pouvoir sur soi, je pense, et oser dire, attendez, je fais l'effort, si c'est pas réussi ou s'ils n'aiment pas, je fais l'effort de cuisiner parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de bien vous nourrir. Donc, soyez indulgents, soyez bienveillants, on va y arriver ensemble, en fait. La prochaine fois, je ferai mieux. Ben, tu vois, c'est aussi je ferai mieux, je ferai meilleur, quoi, parce que je m'améliore au fur et à mesure. Je pense qu'il y a aussi de l'éducation verbale, enfin, je sais pas comment dire, mais...
De la communication.
Ouais, voilà, dire, mais venez cuisiner avec moi, en fait. Ok, j'ai pas réussi ma purée, qui veut la faire avec moi la prochaine fois ? Il faut qu'on y arrive, on n'est quand même pas idiots, il faut qu'on arrive à faire une purée. Ça, c'est vraiment très, très important, je pense, de se dire, on doit y arriver ensemble, en fait. Moi, je me dis souvent, mais c'est mon caractère, je pense, je sais pas... Moi, ma grand-mère, elle arrivait à cuisiner, elle avait 10 fois moins d'ingrédients peut-être que moi aujourd'hui. Elle avait 7-8 enfants de plus que moi. et ça avait l'air très bon ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait. Hein, parce que quand tu écoutes nos parents et donc ses enfants, ah, c'était super bon tel plat, etc. Alors, ils étaient peut-être moins exigeants, je ne sais pas. Mais ça avait l'air bon. Donc, je me dis, on doit être capable quand même.
Ah, mais c'est sûr. Après, en plus, c'est une génération où ils n'avaient pas autant d'ustensiles, autant de... On a quand même plein de choses qui nous facilitent la vie, tu vois, le blender, le mixeur. Je veux dire, nos grand-mères, elles n'avaient pas ça. Elles faisaient comme elles pouvaient. Et pourtant, en effet, elles nourrissaient tous leurs enfants. Alors oui, on dira oui, mais elles ne travaillaient pas. Certes, c'est une réalité pour beaucoup. Et en plus, c'est faux parce qu'elles travaillaient, parce qu'elles avaient généralement des potagers... le champ, etc. Donc si, elle travaille peut-être même plus que nous. Mais je trouve ça hyper intéressant, le côté la liberté dans notre assiette, ça va même au-delà, c'est vraiment notre liberté. Parce que quelque part... Alors ça va être un truc un peu profond, mais j'ai ça dans ma tête, là, depuis tout à l'heure que tu parles de liberté. C'est, d'un côté, je peux comprendre qu'on laisse, qu'on laisse notre pouvoir dans les bras des industriels, parce que est-ce que c'est pas difficile d'être libre et donc sortir d'un moule ? Est-ce que c'est pas difficile d'être différent ? Quand tu vas sur le marché, t'as un peu peur, tu vois, t'es là, t'es pas à l'aise, etc. Alors que quand t'es au supermarché, tu te sens chez toi, tu te sens à l'aise. Et moi, je me dis, les plus grandes transformations dans le monde ont été faites par des personnes qui étaient différentes. On va dire peut-être des opposants, des personnes qui sont sorties de ce cadre, mais qui ont été vues avec des yeux complètement différents. Et c'est eux qui ont fait le monde libre qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que nous, aujourd'hui, après toutes ces années avec et les réseaux sociaux, où on n'est plus libre non plus, on a vraiment les pouvoirs politiques, l'agroalimentaire, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à se dire on sort un petit peu de cette roue de hamster pour aller vivre notre propre liberté ? Je pense que ça peut être difficile. Ça va plus loin que juste aller sortir du supermarché.
Oui, je pense. C'est très profond, en fait. Comment dire, dans notre rôle, je pense par exemple à par rapport à nos enfants, pour aller dans le sens de ce que tu dis qui est très intéressant, c'est que on a un rôle de nourrir, donc de faire vivre, et pour aller encore plus loin, de se faire aimer. C'est-à-dire que tu te rappelles une grand-mère, cuisine bien, oui. Ou une maman qui cuisine bien, c'est quoi ton sentiment ? C'est dire t'es protégée, c'était bien quand elle nous faisait le petit plat, tout ça. Donc il y a cette notion-là. Et quand tu veux sortir, comme tu dis, de ta zone de confort en tant que maman, si t'as l'habitude de faire des plats un peu tout prêts ou de pas trop cuisiner à la maison, quelque part t'es dans une zone de confort, de sécurité, parce que tes enfants aiment ce que tu fais, mais c'est pas toi qui le fais, mais voilà, ils ont un goût qui est habitué. Sortir de cette zone pour reprendre le pouvoir dans sa cuisine, c'est un risque énorme. C'est le risque que je ne sois plus aimée. Tu vois, on va jusque-là, en fait. C'est fort, hein. Donc, je comprends que ce soit difficile. Donc, il y a un vrai travail sur soi. Je parle de la personne qui cuisine, vu qu'effectivement, c'est surtout des femmes qui nous écoutent, la cuisinière. Un vrai travail sur soi pour dire, mais... je suis aimée de toute façon, en fait. Globalement, mes enfants vont toujours m'aimer, que je cuisine bien ou mal. Donc, il faut que je me lance pour prendre ce petit risque, qui est vraiment tout petit, parce qu'à un moment donné, ce qu'on va faire en cuisine va être très bon. C'est un apprentissage, il faut s'entraîner, c'est du sport, il faut s'entraîner, c'est un exercice, il faut s'entraîner. Donc, il faut faire, refaire de façon persévérante, et on va y arriver, en fait, avec des recettes. Tout ce que vous donnez est très simple, en fait. Globalement, ça marche. Il y a du goût derrière. Oui. Il faut juste que les autres se réhabituent, mais on sera toujours aimé. Tu vois,
Oui. C'est hyper important ce que tu dis, parce que on le voit beaucoup sur le groupe, notre groupe Intention. J'ai fait ça à ma famille, et ça a été un échec. Personne n'a aimé. Et je comprends dans le message que la personne laisse sur le groupe Facebook que ça l'a impacté émotionnellement, bien évidemment, parce que depuis toutes ces années où tu avais pris la sauce tomate toute faite dans des pâtes blanches avec du jambon sous vide, bah là tout le monde était d'accord à la maison. Du moment où tu t'es dit je vais faire ma petite sauce tomate avec mes petites tomates pelées, bien sûr qu'il y a des ratés. La sauce tomate, est-ce que t'as bien mis la bonne dose d'épices, la bonne dose de sel ? Est-ce que c'est pas trop fade ? Même moi, hein, parfois je peux bien faire la même sauce tomate depuis des années. Parfois quand je la mange, je suis là, bah tu vas me dire ah, c'est un peu fade. Ah bah ouais, j'ai mal dosé le sel cette fois-ci, j'ai mal dosé les épices. Oupsie, ça arrive. Et c'est vrai qu'on sent le côté, bah, Je suis triste parce que à table, on m'a fait comprendre que ça n'allait pas. Mais ce qui est drôle, c'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, qui étais élevée par une maman qui ne voulait pas d'industriel à la maison, donc on avait le droit à genre un pot Nutella par an, quoi, limite, ou deux par an, je crois. Nous, on était plutôt fâchés contre elle. Quand on allait chez les potes qui avaient toujours plein de gâteaux, et nous, on n'avait pas tout ça, parce que nous, on avait des gâteaux maison, mon Dieu. Quel bonheur, mais en même temps, quel malheur. Parce que j'avais pas le droit à mes Twix, moi. Et mais je me dis, oui, sur le coup, j'étais fâchée contre ma mère. Je l'aimais pas. C'est pas que je l'aimais pas, c'est que j'étais contrariée qu'elle m'ait pas donné ce que je voulais. Mais des années plus tard, par rapport à tous les podcasts qu'on fait aussi, à toutes les vidéos, elle voit bien que, mais merci maman, tel point qu'on t'aime de nous avoir donné ces outils. Et je pense que là, elle s'en rend compte à quel point, merci maman, parce que ça nous a permis, nous, d'être en santé et de répercuter ça à nos propres enfants. Donc bien sûr, maman, on t'aime d'avoir pris soin de nous. Donc quelque part, c'est un message à toutes les mamans. Oui, ils vont bouder. On a boudé. Mais ils vont pas ne pas vous aimer. Ils vont juste bouder.
Bouder. Et faire, quelque part, faire soi-même le plus possible sa cuisine, c'est donner de l'amour à ceux qu'on nourrit. Tu vois? Donc de toute façon, ça va se ressentir. Ça sera peut-être pas sur le moment, ça sera, mais à un moment donné, vous êtes dans le juste. Et c'est très très beau, c'est un beau geste en fait,
oui,
de faire soi-même. C'est vraiment un beau geste. Alors il faut pas culpabiliser. Je veux dire, on apprend tout le temps. Hein. C'est vraiment très important de dire qu'il faut pas culpabiliser pour celles qui ont pas encore fait le pas beaucoup, mais ne pas risquer. Enfin, on ne risque pas de ne pas être aimé. On risque, oui, d'être boudé. Bon, bah, ma foi, ils s'en remettront. Hein.
Et plutôt très bien, j'ai envie de vous dire, plutôt très bien.
Plutôt très bien, puis il faut un petit temps, puis il faut le faire aussi avec de l'humour, avec du jeu. Et il faut préparer le terrain en disant, bon, allez, aujourd'hui, c'est moi qui fais ma purée, hein, donc vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire en fonction de votre caractère. Mais amusez-vous, quoi. C'est ça, l'alimentation, c'est que du plaisir. Mais sauf que quand tu la délègues à quelqu'un, et particulièrement à un industriel, on va dire la plupart du temps, ben il est où le plaisir en fait ? Il y a presque plus de plaisir. Quelque part, tu as nourri un industriel, tu lui as donné ton argent pour qu'il fasse à ta place ce beau plaisir qui est de nourrir ta famille. Non. Moi, je préfère m'investir, effectivement, mettre du temps, mettre la musique que j'aime, le podcast que j'aime, pendant que je cuisine, être bien centrée, bien concentrée, et ça passe. Mais tout, hein, moi aussi, j'ai fait des trucs, ils me les ressortent encore, hein, des gâteaux moches, des gâteaux tout flasques, oui.
mais tout, même ma mère, qui, j'ai beau dire qu'elle est toujours la cuisinière, que je trouve qu'elle est tellement bien à manger, parfois elle va faire un truc, je vais dire, oh maman, et en plus, c'est drôle, c'est que aujourd'hui, on n'a aucun mal à lui dire « Oh maman, c'est bof !» Et ce qui est drôle, c'est que du moment où tu es adulte, tu as beaucoup plus de facilité à encaisser. Parce que ma mère, quand on lui va lui dire ça, ça la fait rire. Elle fait « Ah bah ouais, oh bah oui, je sais pas ce qu'il m'a appris. » Alors que si on avait dit ça quand on avait 5-6 ans, peut-être qu'elle aurait eu ce côté « Ah, bah voilà, j'ai peur de perdre leur amour. » Alors que maintenant, elle sait que, enfin, je veux dire, c'est pour rire, c'est drôle. Mais quand ils sont petits, j'avoue, même moi, hein, la première... Moi, je fais à manger toujours maison pour ma fille. Quand je lui donne un truc et qu'elle me le fout par terre ou qu'elle le pousse en me disant c'est pas bon, je vais pas mentir. Moi aussi, ça me fait un petit truc au cœur. Je suis là à me dire ah bah j'ai passé tellement de temps à le faire. Tu me dis j'aime pas, c'est pas bon. En plus, cette phrase de c'est pas bon. T'es là, bon, tu prends sur toi. Et puis après, moi, je me dis bah écoute, c'est pas grave. Elle a le droit aussi de que ses goûts s'affinent. Elle a le droit de pas aimer les champignons. Elle a le droit. C'est parce que moi, je les aime qu'elle est obligée de les aimer. Donc non, c'est hyper important. Ça va pas enlever l'amour de son enfant. Pas du tout. Et ça va nous rendre beaucoup plus libres. Et nous, on le voit sur la plateforme quand on nous dit « Depuis que je fais maison, après tous vos conseils, etc. » On rigole à la maison. Avec mon conjoint, maintenant, on fait des promenades ensemble pour aller sur le marché. Il s'est mis à cuisiner alors qu'il faisait jamais à manger. Les enfants s'amusent. Et là, on se dit, bah, finalement, le pari gagné, parce que le but, c'est qu'on s'amuse, qu'on passe du bon temps, que dans le foyer, ce soit chouette. Et c'est vrai qu'avec l'alimentation industrielle, il n'y a pas à dire. Les enfants sont souvent Moi, je le vois avec ma fille, le peu de fois où elle mangeait un truc chez ses grands-parents industriels, bah après, c'est des cris, des caprices pour... Enfin, des caprices, on s'entend, mais des cris pour en avoir encore, avoir encore, avoir encore. Et ben moi, je leur dis, vous leur rendez pas, vous leur rendez pas service parce que du coup, après, ça va être de la demande, encore, encore, des cris, des pleurs. Mais je me dis, heureusement qu'elle en fait une fois par mois, parfois, ou une fois tous les 6 mois, parce que lui, ce serait au quotidien. C'est ça que vivent les parents ? Des cris, des caprices, la nervosité de... C'est dommage.
Tu penses à mon petit chat de tout à l'heure. C'était extraordinairement incroyable. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est grave, en fait. C'est grave ce qu'il y a dedans, qui le met dans un état pareil, qui n'est jamais comme ça. Si c'est la même chose chez les humains, où va-t-on ? Plus vous allez manger votre propre cuisine et donc moins manger des aliments transformés, plus votre corps va vous dire quand c'est bon ou pas bon. C'est-à-dire que quand tu manges très peu transformé et que tu fais, on va dire, 95% de tes repas, toujours très simple, hein, à partir du moment où tu manges un peu de Nutella, parce que tu es voilà, dans un resto, un truc, ou voilà, là, qu'est-ce qui se passe ? Un bouton, une petite crampe au ventre, une selle différente. Tu dis, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah oui, j'ai mangé ça. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que quand... C'est le fameux déchet dont je te parle. Le corps n'a pas su quoi en faire, donc il le ressort par la peau, un bouton, par les selles, par une odeur, par un mal de ventre. Bon, bah ok, j'ai une petite crampe, voilà. Mais quand tu en manges tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, le corps, tu vois plus les signaux, en fait, parce qu'il y en a beaucoup, sur la peau particulièrement. Donc, du coup, tu les vois plus, les signaux. Et le corps, il s'encrasse. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Plus on mange sainement, plus les signes, quand on mange pas sainement, sont forts. Alors, on va dire, oh, c'est embêtant, mais c'est super.
C'est tellement drôle, Claudie, mais alors, attends, c'est tellement drôle. Nous sommes lundi, présentement. Vendredi, Mathieu, mon conjoint, donc, me dit, je pars chez mes parents, pendant tout le week-end, tu vas être seule chez toi. Tu vas être seule à la maison, profites-en, repose-toi. Super, je suis tellement contente, je vais faire mes courses sur le marché le vendredi matin, comme tous les vendredis matins. Et il me dit, il faudra juste penser à aller à Super U, acheter des couches pour Alba, parce qu'il n'y en a plus. Je prends toutes celles pour le week-end, donc après, il n'y en aura plus. Ok, je vais donc à Super U acheter des couches. Je suis seule à la maison. Je passe. Alors là, les personnes qui nous connaissent très bien, qui me connaissent très bien, savent tout de suite vers quoi j'ai été attirée. Je vais à Super U, puis je suis dans les rayons, je prends le paquet de couches et je passe devant le rayon qui est pour moi ce que j'aime énormément, les madeleines. Les madeleines. Moi, désolée, je n'aime que les madeleines industrielles. Quand je les fais maison, ça n'a pas ce goût d'industriel. Ça aussi, c'est très drôle. Ça n'a pas ce goût-là. Donc, j'en achetais peut-être une fois par an. Mais c'est un petit peu mon petit truc, quoi. Je prends le paquet. Donc, imaginez les madeleines avec la petite coque chocolat au lait en dessous.
Oh, en plus.
Voilà. Je rentre à la maison toute contente en me disant, voilà, ce soir, je vais me prendre, je vais faire mon petit repas. Puis après, j'aurai en dessert une petite madeleine. À 16h, mon estomac gargouille. Je me dis, oh, bah, je vais prendre une madeleine. 16h30, je me dis, oh, j'en prends une deuxième. 17h, j'en prends une troisième. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vomi tout le vendredi soir.
Ah, voilà.
Le lendemain, je suis toujours barbouillée, je vomis, j'ai la diarrhée. Soyons crus, hein, soyons honnêtes. Et ensuite, je me rends compte qu'en fait, bah, il me semble que ce que j'ai là aujourd'hui, quand je parle, hein, je suis patraque, j'ai une gastro qui est arrivée juste après les madeleines. Donc je me suis dit, attends, et Marisa, je l'appelle, je vais pas bien, je fais que vomir. T'as mangé quoi ? Des madeleines industrielles. Et du coup, on a ri parce qu'elle m'a dit, t'es vrai. C'est toujours comme ça avec moi. Quand j'ai mangé un truc hyper industrialisé, automatiquement, mon corps, mais il me l'éjecte. Et moi, généralement, c'est sous forme de vomissement. Alors qu'à la base, je voulais juste manger 3 madeleines, quoi. Eh ben non, mon corps n'a pas supporté. Du coup, vous imaginez bien que j'ai le paquet de madeleines là, qui me dégoûte quand je passe devant. Mais...
Donc, ça veut dire que tu as le droit de manger ces madeleines, parce que, voilà. Mais ton corps te dit, ok, t'as mangé, super, tu t'es fait plaisir. Quelque part, les 3 madeleines, tu t'es fait plaisir, tu vois.
Finalement.
Oui, mais après, ton corps a dit, j'en veux pas, donc maintenant, je vais les éjecter. Donc il a fait ce qu'on appelle nous en naturo une manifestation de la force vitale, c'est-à-dire que il a dit OK, elle est mignonne, ils adorent, mais ça passe pas du tout ce truc-là. Donc je les éjecte comme je peux par le haut ou par le bas. Et certains, toujours en fonction de nos terrains, de nos sensibilités, d'autres vont les sortir par la peau en forme de boutons. D'autres, ça va être juste des douleurs. Donc, des douleurs articulaires, par exemple, aussi. Hein. Il y a plein de personnes qui mangent pas bien et qui ont des douleurs articulaires atroces et qui ne savent pas comment s'en sortir. Juste l'alimentation. C'est vraiment très important. Donc merci, ton corps. Bon, t'en as un petit peu profité, mais il t'a aidé, tu vois. Ouais. Et ça, c'est... on va dire, tu en mangerais tout le temps, tu serais pas tout le temps en diarrhée ou en vomissement. Tu serais certainement très mal, t'aurais des douleurs, t'aurais... voilà, tu serais pas traque, tu serais pas en forme, tu serais peut-être triste, tu serais peut-être voilà. Mais là, maintenant que tu as fait un travail sur toi et que tu manges, on va dire, 99,9% du temps conforme à ta physiologie, eh bien, quand c'est pas conforme, je te le dis. Comme une voiture. La voiture, elle se serait arrêtée si tu avais mis du diesel.
Ouais.
Tu vois, bah, c'est ça. Donc, reprendre le pouvoir, c'est vraiment aussi dire à son corps, attends, mais... Tu es si merveilleux que je te donne quelque chose qui est bon pour toi. Mmh. Et ça, on a oublié. Parce que les industriels, c'est pas que de notre faute, hein, faut pas non plus, voilà. Les industriels savent très bien nous le faire oublier, hein. Vous regardez les packaging, c'est bon pour les enfants. Enfin, je sais pas ce qu'ils disent parce que je regarde plus trop, mais en gros, c'est sain, naturel, voilà. Donc nous, on se laisse leurrer. Enfin, je veux dire, après tout, c'est aussi ça, faire confiance. Bah non. Là, en termes d'alimentation, je pense qu'on ne doit faire confiance qu'à soi-même.
Et ben c'est hyper intéressant. Et surtout, j'aime bien le côté de dire, oui, il ne faut pas culpabiliser, parce que, bien évidemment, qu'on n'est pas tous responsables. On est responsable de s'informer, ça c'est sûr, mais il faut faire le choix d'aller s'informer. Et moi, il y a encore 9 ans, 10 ans, j'ai eu beau avoir une super éducation alimentaire. Bah, quand je suis partie de chez ma mère, moi aussi, je suis allée dans les supermarchés. J'ai mangé énormément cracra pendant des années. J'ai fait le choix de m'informer, mais il faut faire le choix de s'informer, mais où? C'est pas non plus mainstream, comme on dit. C'est pas, je vais pas m'informer en regardant la télé. Puisque à la télé, sur TF1, ils vont pas me dire, en fait, il faut éviter d'aller manger industriel, bien évidemment. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas à culpabiliser parce que, justement, nous, tout notre travail, c'est de pouvoir vous informer le plus facilement possible avec des termes faciles, quoi. Parce que bon, c'est bien sympa de nous parler après, sinon très précis, de ce qui se passe physiologiquement. C'est chouette. Mais c'est bien aussi d'avoir, comme là tu viens de faire, c'est vulgariser, c'est nous expliquer qu'en gros, en fait, on a fait 1h20 d'épisode pour dire juste, refaites à manger, pardi.
C'est ça. Allez, c'est la base.
C'est ça. Et remettre à manger de façon simple. Ne vous montez pas le bourrichon parce que il faut faire un avocado toast de cette façon, de cette façon. Utilisez ces moments-là, justement, de cuisine hyper élaborée. Le week-end, quand vous recevez, c'est chouette ces moments-là. Même aller au restaurant, dans des super restaurants qui vont vous proposer ce type d'assiette. Mais au quotidien, alors oui, une assiette jolie sera toujours meilleure. Ça, c'est sûr. Au goût, visuellement, c'est toujours meilleur une assiette qui est jolie. Mais une purée peut être tout aussi jolie dans une assiette qu'un avocado toast.
Ouais. Non, c'est vraiment très, très important. Donc, retournons en cuisine. Oh là là, on va être con, ce qu'on dit.
Retournons à la cuisine. Que vous soyez une femme ou un homme. Je veux dire, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent, mais ce n'est pas eux qui communiquent le plus avec nous. Mais je sais qu'ils nous écoutent. Les jeunes aussi. Finalement, quelque part, c'est aussi pour la future génération qu'on fait tout ça, nous. Parce que c'est important que la future génération ait accès toujours à des produits bruts et que ce ne soit pas les industriels qui aient pris le pouvoir dans 20, 30, 40, 60 ans. 100 ans, ce serait dommage.
Tout à fait. Tout à fait. Il faut les garder pour des situations très exceptionnelles. Et puis, le reste du temps, la plupart du temps, faisons nous-mêmes. C'est clair. De toute façon, on a ce pouvoir-là. Hein. À partir du moment où on arrêtera d'acheter... des cochonneries, ils ne les produiront plus.
Oui.
Tant qu'on les achète, pourquoi s'arrêterait-il? Donc c'est nous qui avons le pouvoir, hein, en fait, c'est nous consommateurs. Oui. Voilà. Après, en consommant, en donnant notre argent dans un supermarché, on milite sur quelque chose, donc on dit ce qu'on veut pour nous et notre planète. Oui. Si on achète des cochonneries, ben on veut des cochonneries. En fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Si on arrête d'acheter ces cochonneries, on dit à nos industriels, à nos pouvoirs publics, à la planète, je veux plus de cochonneries. C'est nous qui avons ce pouvoir-là. Chaque personne. Donc, utilisons-le. Moi je pense. Hein.
Et en plus, c'est pas ça. Ça va, on ne demande pas d'aller dans les rues et de faire de la grève ou quoi. On demande juste de... Ouais, dans... Exactement. Tout se passe finalement dans notre cuisine. C'est fou. Et ben, ce sera le mot de la fin. On vote dans notre cuisine aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Claudie. C'était, comme d'habitude, hyper intéressant. Je trouve que c'est toujours passionnant de se rendre compte du pouvoir qu'on peut avoir, même si on pense ne plus l'avoir. Et ça qui est drôle. Donc, on espère que cet épisode vous permettra de vous dire, ouais, moi aussi, je peux. Je vais bien commencer quelque part. Même si c'est au plus bas, et ben, c'est pas grave. On va pouvoir que évoluer. Et ça qui est chouette. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, à plus!
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.